voter vendredi, il faudra 44 jours pour que tous les électeurs puissent exprimer leur choix. Mais oui, parce que l'Inde, c'est 6 fois la France, mais en 20 fois plus peuplée. 980 millions d'électeurs, plus de 5 millions de machines électroniques. Mais au-delà des chiffres, ces élections sont importantes parce que l'Inde est un pays qui pèse sur l'économie mondiale.
Oui, donc cela mérite une analyse avec un spécialiste du pays.
Et évidemment, et c'est Christophe Jaffrelot, chercheur au CERI, au CNRS, et auteur du livre « Inde de maudit chez Fayard ». Monsieur Jaffrelot, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que je peux dire que les jeux sont faits, que le Premier ministre Narendra Modi va rempiler, ou c'est aller un peu vite en besogne ?
C'est aller un peu vite en besogne, tout simplement parce qu'on est jamais à l'abri d'une surprise lorsque les électeurs dans l'isoloir glissent le bulletin ou en l'occurrence d'ailleurs appuient sur la machine électronique hein, puisqu'on vote de manière électronique en Inde. Ceci dit, il y a une forte présomption pour qu'effectivement Narendra Modi puisse être réélu, tout simplement parce que ces élections ne sont pas seulement marqués par sa popularité, mais aussi par des pratiques antidémocratiques qui jouent en faveur du parti au pouvoir et bien sûr contre les formations d'opposition.
Alors ceci étant, ce pouvoir, effectivement, il est autoritaire, il muselle la presse notamment, mais aussi la population. Comment Narendra Modi est-il parvenu à être à ce niveau de pouvoir et à se maintenir surtout ?
Eh bien, il a effectivement combiné à la fois un culte de la personnalité, il a travaillé son image, il a une capacité, comme beaucoup de populistes d'ailleurs, hein, à se relier directement à la population. Il parle à chacun et à chacune en leur disant ce qu'ils souhaitent entendre en quelque sorte. Cette popularité s'adosse à une pratique du pouvoir très autoritaire. L'opposition est empêchée parce que certains de ses leaders ont été emprisonnés. Et puis le principal parti de l'opposition, le parti du Congrès, lui a vu ses comptes bancaires gelés et se retrouve donc privé de ressources financières pour mener campagne. À quoi s'ajoute un maniement vraiment très sophistiqué de la carotte et du bâton vis-à-vis de députés sortants qui sont menacés de poursuites et blanchis dès lors qu'ils veulent bien tourner casaque, retourner leur veste et rejoindre le BJP, ou même on peut leur promettre d'ailleurs un poste ministériel. Du coup, on a un affaiblissement de l'opposition. L'opposition est empêchée de mener une campagne digne de ce nom.
Alors on sait que Bollywood, hein, le secteur cinématographique indien, est acquis au Premier ministre. Et il faut quand même d'autres soutiens pour réussir une élection. Il faut de l'argent. Narendra Modi, il n'est pas tout seul.
Non, il n'est pas tout seul. Alors, plus encore que Bollywood, ce sont les oligarques que Narendra Modi cultive. On a aujourd'hui quelques grands hommes d'affaires auxquels Modi a donné des secteurs entiers de l'économie. Et en échange de ces largesses, le pouvoir accorde quantité de privilèges et reçoit l'argent qui va avec. Il faut vous dire que lors des élections de 2019, c'est 3,5 milliards de dollars que Narendra Modi avait dépensé. Donc on est dans un système où l'argent joue un rôle énorme, mais pas seulement. Les médias sont aussi évidemment très importants, et le contrôle que le pouvoir exerce sur les médias est redoutable. Alors il y a les intimidations classiques, hein, mais aussi le rachat de certaines chaînes de télévision, justement par des oligarques, des amis du pouvoir. Il n'y a plus guère que quelques sources d'informations dignes de ce nom en Inde, et certainement pas des mainstream médias, qui sont les grandes chaînes de télévision ou les grands journaux.
Alors vous parliez à l'instant d'argent. S'il y a bien un thème qui n'a pas fait partie de la campagne, c'est l'économie. Ça, on n'en parle pas.
Ah non, on n'a pas intérêt à en parler parce que c'est justement le grand point de faiblesse. Il avait promis des emplois, il avait promis des investissements étrangers, il avait promis le doublement du revenu des paysans. Au contraire, tout le monde s'est paupérisé. Parmi les pauvres et la classe moyenne, le grand échec, c'est l'absence d'industrialisation. L'industrie, au contraire, perd des parts de PNB. Aujourd'hui, elle ne représente plus que 14%. Le manufacturing, hein, ne représente plus que 14% du PNB. C'est la Chine qui exporte des produits à bas prix. Et ça fait d'ailleurs que l'Inde a un déficit commercial avec la Chine absolument abyssal de plus de 120 milliards de dollars. Tout ça, ce sont des échecs patents. D'autant plus Pas tant que les promesses étaient très séduisantes, hein, et c'est le propre des populistes que d'être aussi des démagogues.
Alors on va terminer avec une anecdote, sachez que certaines urnes ont été amenées à dos de chameaux et à dos de yaks, et que l'isoloir le plus haut était à plus de 4000 mètres d'altitude. Monsieur Jaffrelot, merci, et merci à vous qui nous écoutez d'être ouverts.